R22, tout monde, antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Bon, je vais commencer à, comme mes prédécesseurs, par remercier chaleureusement, vivement les organisatrices pour l'organisation de ce colloque festival, à la fois très nécessaire et très original aussi par sa forme. Et comme Christine Plantel l'a fait, je vais saluer à la fois l'ouverture du colloque, son ouverture à différentes formes de poésie, différents siècles, différentes aires linguistiques, et surtout le fait qu'il associe des chercheuses et des poètes. Comme l'a dit Lucie Dumont, qu'il y a une réelle volonté d'interdisciplinarité. Donc très ouvert et puis très ferme aussi, enfin très net dans sa ligne, dans ses questions, sous forme de questions, comme le rappelait ce matin Enaïg. Sans plus tarder, je vais présenter d'abord Benoît. Donc nous allons écouter deux communications autour du neutre, qui je pense ont été qui vont prolonger les réflexions de Christine Planté et Audrey Lasserre sur les questions de catégorie critique. Benoît Auclair est maître de conférence en littérature française des 20e et 21e siècles à l'Université Lyon 3 Jean Moulin. Il travaille sur des questions de réception, des questions de genre et également sur les rapports entre littérature et politique. Il a consacré sa thèse à Francis Ponge et à Nathalie Sarraute et il poursuit des travaux notamment sur Francis Ponge. Il est depuis 2016 co-directeur avec Pauline Flett des cahiers Francis Ponge publiés chez Classique Garnier. Avec Yannick Chevalier, il a dirigé un collectif intitulé « Lire Monique Wittig aujourd'hui ». Il a aussi dirigé un collectif consacré à Nathalie Quintane. Sa communication est intitulée « Persistance du neutre ». Et Benoît, je te laisse la parole.
Merci Abigail. Je vais commencer moi aussi, et quitte à être redondant, par remercier les organisatrices pour ce colloque festival qui d'ores et déjà s'annonce très ambitieux, très enthousiasmant aussi, et qui pose à nouveau frais et à nouveau terme, même si ces termes sont difficiles à choisir, la question des femmes poètes, des poétesses, des femmes et de la poésie. Je vais commencer cette intervention, une fois n'est pas coutume, par un petit détour autobiographique, puisque l'appel à communication de ce colloque m'a irrésistiblement ramené longtemps en arrière, en 2006, à une journée d'études que j'avais organisée dans le cadre d'un programme de recherche dirigé d'ailleurs par Christine. Journée d'études à laquelle, après avoir hésité, Liliane Giraudon avait accepté de participer. Et cette journée, je l'avais intitulée, selon un titre très embarrassé d'ailleurs, « Neutralisation et inscription de la différence dans les écritures poétiques contemporaines ». La question du genre n'y était donc pas explicitement posée, mais elle était désignée par une sorte d'euphémisme, inscription de la différence. Pourtant, il s'agissait bien de cela malgré tout. Qu'est-ce qu'être femme et poète? Qu'est-ce que cela fait aux personnes concernées par ces mots? Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on lit les textes? En cette fin de 2006, je continue ma petite autobiographie, ça va passer vite, je vous rassure. Je venais de terminer une thèse consacrée à Francis Ponge et à Nathalie Sarraute et à peine déposé mon manuscrit, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais travaillé sur un écrivain homme et sur un écrivain femme. On ne disait pas encore écrivaine, surtout pour Sarraute, et que peut-être ça aurait pu entrer en ligne de compte d'une façon ou d'une autre dans mon étude. Derrière vos écrans, cette naïveté vous fait peut-être sourire. Et à ma décharge, il pesait un interdit très fort dans les études sarrautiennes concernant le fait de lire l'œuvre de Sarraute comme émanant d'une femme. Et cet interdit venait de Sarraute elle-même. Et je pense notamment à ses déclarations autour du neutre dans ses entretiens avec Simone Ben Moussa de 87. Je cite ses entretiens. « Je ne pense pas du tout androgénéité. À l'intérieur où je suis, le sexe n'existe pas. Je ne me dis jamais « ça, c'est ressenti par moi, ou par une femme, ou par un homme. Je ne pense pas que c'est une femme qui écrit. Cette chose-là, ce que je travaille, est en train de se passer quelque part où le sexe féminin ou masculin n'intervient pas. » Depuis, ce point aveugle de la critique sarotienne a été brillamment éclairé par Chloé Jacquesson, qui, dans sa thèse, propose une lecture croisée de l'œuvre de Sarot avec celle de Wittig. Et elle a justement intitulé cette thèse « Quelque part où le sexe n'existe pas ». Mais en 2006, cette réflexion n'existait pas encore. Et elle était même déclarée illégitime donc, par Sarot elle-même, Sarot morte peu de temps avant. Et il m'a donc fallu beaucoup de temps pour comprendre que, malgré tout, Sarot pouvait bien, d'un certain point de vue, être considérée comme un écrivain femme. Et qu'en tout cas, la neutralisation à laquelle elle procédait dans ses textes et dans ses postures d'écrivain était un processus qui méritait attention. Dans le même temps, je me suis avisé par ailleurs que les séminaires que je co-animais alors, ceux du Centre d'études poétiques que dirigeait Jean-Marie Glaise, étaient les seuls cours de littérature de l'ENS de Lyon à attirer autant, voire plus de garçons que de filles. Les personnes qui connaissent Jean-Marie Glaise, elles sont nombreuses ici, savent que créer un boys club n'est pas trop son style. Et de fait, ces séminaires n'ont jamais été un boys club. Mais la question ne tenait donc pas à sa personnalité, mais semblait bien être davantage structurelle ou systémique. Pour moi, néanmoins, et en cela, je pense que j'étais bien au diapason de l'époque, qui n'est vraiment plus tout à fait la nôtre. La seule manière légitime de poser cette question du genre en poésie, c'était la question du neutre, ou plutôt de la neutralisation. Et cette question me paraît toujours légitime, je le dis d'emblée, même si, et cela me semble heureux, et se situer tout à fait dans le prolongement de la conclusion de Christine, ce n'est sans doute plus la seule possible façon de le faire. Ce petit récit permet justement de mesurer à quel point les choses ont pu changer en 15 ans, mais il a retrouvé pour moi une actualité récente. C'était en novembre 2019, alors que je recevais à Lyon Cécile Ménardi avec des étudiants. Sa vision de la présence et de la mise en jeu d'un certain nombre de stéréotypes de genre, notamment autour du jeu des couleurs, du rose, de la blondeur. Une étudiante a interrogé Cécile Ménardi sur le rôle des questions de genre dans son écriture. À quoi elle a répondu ceci, que j'ai noté très exactement. « J'ai l'impression d'écrire depuis un point hors âge et hors sexuation. Ce n'est même pas la question du genre, je ne suis même pas dégenrée. Je ne suis absolument pas une femme auteur. » Soit, presque au mot près, les déclarations de Sarot. D'où la question que j'ai voulu aborder aujourd'hui de la persistance du neutre, à la fois comme stratégie qui a sans doute connu des mutations sur lesquelles je voudrais revenir, mais aussi comme une sorte de fin de non-recevoir ou comme évitement d'une question toujours perçue comme piégée. Et cette catégorie du neutre se trouve, elle aussi, tout récemment encore, investie dans une guerre des mots, une guerre idéologique qui la remet en perspective, dont j'espère j'aurai le temps de dire un mot pour finir. J'étais partie il y a 15 ans, et ce sera aussi mon point de départ aujourd'hui, et j'en ai fini avec toute remarque autobiographique. Je vais maintenant parler d'autres gens que de moi. J'étais partie donc de Daniel Colaubert, précisément parce qu'elle me semble caractéristique d'un certain désir de neutre, paradoxal car pouvant paraître peu désirant, encore que, et caractéristique donc d'une stratégie de neutralisation du reste contemporaine de la réflexion de Barthes. Il faut peut-être que je dise quelques mots de Daniel Colaubert, qui est une de ces figures voilà, qui périodiquement disparaissent et reparaissent. Justement, en 2006, Daniel Colaubert était de nouveau une figure très visible avec la parution chez POL de ses œuvres complètes en deux volumes. Le premier volume regroupait l'ensemble de ses livres parus dans les années 60-70 et le second volume reprenait des textes de pièces radiophoniques et des carnets jusque-là inédits. C'est une œuvre très ramassée, composée pour l'essentiel donc de quatre livres. Meurtre, qui paraît une première fois chez Gallimard en 64, alors qu'elle a 24 ans. Les deux livres suivants, Dire 1 et 2, sont publiés dans la collection Change, dirigée par Jean-Pierre Faye aux éditions Ségéras Lafond. De même que le suivant, Il donc, paru en 76. Le dernier livre, Survie, paraît aux éditions Orange Export LTD d'Emmanuel Occar et de Raquel. Ce texte, on le retrouve dans l'anthologie récemment parue d'Orange Export. Ces dates, ces lieux d'édition contribuent à situer Colaubert dans la proximité de certaines écritures d'expérimentation, alyrique, voire antilyrique, marquées par une tension vers l'impersonnel. Dans cette anthologie que je viens de mentionner, son nom côtoie ceux d'Anne-Marie Albiac, de Jean Dève, de Claude Royer-Journoux. L'une des rencontres importantes de Colaubert, ça a été Beckett, et ses écrits, comme ceux de Beckett, explorent des situations limites, au bord de la rupture, de l'effacement, de même que des positions énonciatives limites que Colaubert tente, abandonne, reprend, explore à nouveau. Outre ses nombreux voyages, son engagement auprès du FLN durant la guerre d'Algérie, l'un des faits marquants la concernant, et je crois qu'il me faut le mentionner d'emblée, c'est sa fin brutale et précoce, puisqu'elle se suicide le jour de son 28e anniversaire en 78, quelques jours après l'apparition de Survie. Si je mentionne cette fin tragique, ce n'est pas pour en faire la clé explicative de l'ensemble de l'œuvre, peut-être même au contraire, mais souligner cette coïncidence de l'apparition d'un livre, Survie, et de cette mort violente, et qui rend co-présente les extrémités auxquelles Colaubert se rend, les positions limites qu'elle explore. Parmi les livres que j'évoquais, un en particulier retient l'attention ici par son titre, c'est donc « Il donc ». Le livre est caractérisé par l'usage devenu systématique chez Colaubert du tiré, qu'elle a déjà commencé à explorer dans un livre précédent, « Dire 2 », et il se présente comme une série de paragraphes brefs, parfois plusieurs par page, séparés par des blancs, paragraphe qui associe des groupes nominaux, il y a peu de verbes chez Colaubert, groupes reliés, dissociés par des tirés. Je cite le premier de ces paragraphes qui explicite le titre du livre. J'ai renoncé à faire un diaporama pour ne pas rajouter des écrans aux écrans. Je peux essayer de montrer le livre à l'écran parce que la dimension visuelle de... Voilà, vous n'arriverez pas à lire, mais ça vous donnera une petite idée de la manière dont ça se présente sur la page. Je lis cette page que vous venez de voir. Il donc, il, abandon de l'impersonnel, de l'infinitif, enfin résigné, incarné, de la chair douloureuse, s'incarner comme l'ongle du pouce, il donc. Ainsi compris, dans ces mots liminaires, le « il » s'oppose non pas à « elle », mais donc à des formes faisant l'économie des marques de personnes. Dans ce « il » se coagule le renoncement à une pure virtualité, à le renoncement à ne faire que capter des mouvements qui ne se figeraient pas en des sujets identifiables. L'idéal, ce serait donc des modes plus infinitifs, plus impersonnel, et notamment l'infinitif privilégié dans les livres précédents. Je cite une phrase de Dire 2, c'est « le mieux, tracer un mot entre deux flux, si on pouvait faire ça ». Donc l'idéal, c'est l'infinitif et le « on ». Et le titre indique que faute de mieux, et puisque parler vient d'un corps, il nous faut bien employer un pronom personnel, même si « on », même si « ça » semblerait devoir convenir aussi bien. C'est bien ce qu'aperçut Norma Cole quand elle a traduit ce livre en 89, elle l'a traduit par « it then ». Il y aurait une seconde façon néanmoins de comprendre ce titre comme une concession minimale, mais qui choisit, tant qu'à choisir un pronom personnel, le « il » plutôt que le « elle ». Et donc, cette fois, ce « il » s'inscrirait dans une stratégie à l'égard du genre, question que ne thématise presque jamais Colaubert, mais qui me semble bien, bel et bien à l'œuvre chez elle. Dans les premiers livres, le jeu oscille ainsi de façon presque imperceptible, du masculin qui est dominant au féminin qui n'est pas totalement absent. Cette question de la marque comme singularisation qui emprisonne et dont il faut se défaire, elle apparaît à plusieurs reprises chez Colaubert dans plusieurs contextes, et notamment dans un petit texte tiré du premier livre « Meurtre ». Alors « Meurtre », contrairement au passage que j'ai cité précédemment, ça se présente plutôt comme des textes de prose très ramassés, souvent narratifs, mais des narrations à peine esquissées. Donc là, je vous cite le début d'un texte. C'est le début, il n'y a rien avant. « J'ai une marque sur le visage. Aussi beaucoup de gens se retournent-ils sur mon passage. Qui peut s'habituer à une telle chose ? Je passe dans la rue, je regarde les gens, et eux, en me croisant, n'ont le temps de penser qu'à cette marque, à ce signe, à cette condamnation. C'est arrivé dans la rue un jour. J'ai senti des regards bizarres, plus lourds soudain, beaucoup plus lourds. Je passe. À partir de ce moment-là, c'est mon allure qui a commencé à changer. Je me suis un peu voûté et j'ai pris l'habitude de traîner les pieds. Je vous cite maintenant la dernière phrase du texte. Mon existence, évidemment, n'a plus aucun rapport avec celle qui a précédé ma maladie. Dans ma ville, petit à petit, cette marque m'a établi une nouvelle identité. Alors, il faut préciser que dans ce passage que je viens de lire, voûté est accordé au masculin. Je me suis un peu voûté, j'ai pris l'habitude de traîner les pieds. Donc, les marques du genre dans le texte sont au masculin, mais la marque dont parle le texte, reçue dans la rue, rendue perceptible et agissante par le regard d'autrui, ne renvoie donc pas à une stigmatisation liée au genre. Pourtant, la scénographie même de cette scénette fait penser, bien sûr, à la réification des corps identifiés comme féminins dans la rue et dès lors perçus comme faisant l'objet de regards bizarres, plus lourds soudain, et ces regards pesants amènent à se voûter. La marque qui singularise dans le texte est assimilée finalement à la fois à une maladie et à une identité, et cette double assimilation, elle laisse entendre que l'enjeu qu'il y a pour Colaubert à aller vers l'impersonnel et à défaut d'impersonnel, vers le « il ». Il y a d'autres indices dans d'autres textes qui amènent à penser que ce « il » donc peut aussi s'entendre du côté des problématiques de genre. Un premier indice, je l'ai trouvé dans un des carnets, une notation de 62 en Italie. Ce sont des carnets privés, mais Colaubert utilise aussi cette écriture à l'infinitif avec des tirets. Difficile d'observer les gens, les hommes. Ils s'imaginent, le petit soldat à côté, il m'a suivi depuis le pont, plongé dans le nez dans ma feuille pour ne pas être dérangé, contenance. Incroyable d'en arriver là encore. Cette fois, les marques sont bien au féminin, ce sont des carnets personnels. Et il me semble que la proximité avec le texte de meurtre que j'ai cité précédemment est forte, sauf que cette fois, ce sont bien des rapports de genre qui sont ici en cause. Mais dans le texte de meurtre, cette marque dont il est question n'est pas spécifiée, et on peut voir dans cette stratégie de neutralisation, il y a bien une stratégie qui vise à faire gagner le texte en généralité, le faire monter en généralité et en polysémie. Le second indice qui m'amène à penser que la question du genre, malgré tout, fait l'objet d'un traitement chez Colaubert, c'est que ce second indice, il a trait au traitement justement des marques de genre dans les textes publiés de son vivant, ce qui n'est pas le cas du carnet que je viens de citer. La stratégie qu'elle adopte dans les narrations brèves de ses premiers textes est très majoritairement, je l'ai dit, celle d'une narration au masculin, ou plutôt sans marque de genre, mais parfois, on a aussi le passage de l'un à l'autre. Je vous cite à nouveau le début et la fin d'un texte extrait de Meurtre. « Je n'ai pas assez parlé de cette odeur. Pourtant, depuis quelque temps, il n'y a qu'elle qui existe vraiment, tout se fond en elle. Ce n'est pas à proprement parler une vraie odeur, comme on peut en sentir partout, dans les rues, dans les chambres, toutes les maisons. C'est une odeur souvenir, odeur rappelle. Elle prend à la tête, enveloppe, étreint. Je baigne en elle confusément. Je l'ai trouvée, elle m'a prise dans un train. Il y avait beaucoup de monde. Je vous cite la fin du passage. Je suis arrivée au bout du train plus tard. Il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là devant ce mur mobile définitif. J'ai cherché un peu, puis j'ai ouvert la portière et je suis sortie, pleine de l'odeur, pour longtemps. Ce sont donc des extraits d'un texte très bref, de 2 pages, et ce sont le début et la fin. Entre-temps, est raconté un meurtre. La personne qui dit « je » et dont on ne sait rien a tué 2 personnes dans le train et à partir de là est poursuivi par cette odeur. Mais dans ce passage, les marques de genre attribuées au « je » sont variables, comme si ce « je » n'était pas durablement affecté par elle. Donc, au début, il est dit « l'odeur m'a prise », puis à la fin du texte « je suis arrivé au bout du train et », mais « je suis sorti ie ». Et donc, si à partir de dire ce sont les modes impersonnels que privilégie Colaubert, on trouve néanmoins donc encore de telles variations dans « dire », dans « il donc », discrètes ces variations au point que, à première lecture, elles peuvent apparaître comme des lapsus. Et Jean-Pierre Fay raconte dans sa préface comment, recevant ses manuscrits, il a eu la tentation de corriger ce qui lui apparaissait comme des fautes. Je le cite « Je lisais ces pages avec attention, saisi peu à peu par la nécessité de corriger certaines terminaisons des participes passés. Un instant, j'ai cherché un crayon, mais il m'a servi aussitôt à marquer les séquences où cela se passait. » Pour en revenir à « il donc », donc, on peut voir dans ce choix du « il » une concession à l'énonciation personnelle, qui d'ailleurs disparaîtra à nouveau dans « survie », où sont privilégiés les substantifs, les participes présents, toutes sortes de formes en « en ». Mais on peut y voir donc aussi un effort de neutralisation des marques pour trouver un point d'énonciation affranchi des singularisations stigmatisantes, des particularisations perçues comme trop limitantes. Et cette neutralisation, comme l'écrit Jean-Pierre Fay, peut tout aussi bien être perçue comme un effort de neutralisation. Voilà, je passe un peu vite pour dire simplement les derniers mots de « il donc »,« il donc émigré transcrit ». Et ces derniers mots sont des mots de conquête. Je voulais insister là-dessus. C'est que cet effort d'énonciation, finalement, est aussi un effort de passage et de reprise de la parole. Bien sûr, ce texte résonne avec la valorisation ou le désir de neutre que théorise quasiment simultanément Barthes, c'est son cours du Collège de France de 1977, où il théorise le neutre comme ce qui déjoue le paradigme, ce qui, je le cite, « défait, annule ou contrarie le binarisme implacable du paradigme par le recours à un troisième terme ». Il a 2 faces, ce neutre, pour le dire rapidement, chez Barthes. D'une part, il permet la suspension des ordres, lois, commination, arrogance. Mais il peut, et dans cette suspension, on peut y voir une formulation du sans-sexe. Mais il y a aussi une seconde face, celle qui est développée pour finir avec la figure de l'androgyne, caractériser cette seconde phase par la complexité, la multiplicité plutôt que l'effacement ou le retrait. Au moment où ces œuvres complètes ont reparu chez POL, Action Poétique a consacré un numéro à Colaubert auquel contribuèrent 2 nombreux écrivains, parmi lesquels Liliane Girodon, Cole Swenson, Henri Deluy, mais aussi un certain nombre d'écrivains nés dans les années 60 et jusqu'au début des années 70, qui avaient donc entre 35 et 45 ans au moment de la parution de ce numéro. La perception de cette stratégie de Colaubert est très diversement appréciée par eux. Jérôme Gamme souligne dans son texte intitulé « Centripétifuge » la dimension émancipatrice chez Colaubert de, je le cite, « une ligne qui pulse, pousse vers le un ailleurs là-bas, ailleurs sans moi, où je peux enfin être débarrassé assez de moi, mon genre. » Et les deux autres écrivains, qui sont des écrivaines, Véronique Pitolo et Nathalie Quintane, insistent quant à elles sur le mouvement d'effacement, sur ce qu'il peut y avoir de mutilant ou d'autodestructeur dans cette stratégie. Véronique Pitolo écrit « J'avoue ne plus avoir beaucoup d'attirance pour les écritures blanches des années 70. Beaucoup de blancs, peu de mots, un masochisme de la souffrance qui se regarde souffrir. J'avoue leur préférer des tentatives plus jubilatoires, plus optimistes. » Chez Quintane, on sent une réserve peut-être encore plus forte et assez proche. Le lecteur assiste au dressage de Colaubert par Colaubert. Elle évoque par ailleurs une écriture anorexiée. Et conclut, l'absolu d'une certaine gravité littéraire mène, semble-t-il, à la ligature du texte et de soi. Et donc, on voit bien que l'accent est ici mis sur l'entrave plutôt que sur ce qui apparaît à la fin de Il donc, ce mouvement d'émigration, de transcription. Ces réserves, me semble-t-il, disent bien l'écart entre le désir de neutre qui, dans les années 70, était une échappatoire aux tentatives d'assignation et des positions plus ouvertement affirmatives et qui n'envisagent pas nécessairement la lutte sur le mode du retrait et en cela qui sont différentes du neutre conçu comme chez Roland Barthes, comme, et je cite Barthes, « son propre style de présence aux luttes de son temps ». Pour autant, bien qu'adoptant de plus en plus une position politiquement offensive, y compris sur les questions de genre, il me semble que quelqu'un comme Quintane prend garde de ne pas le faire en tant que femme, ou en tout cas d'adopter une position aussi ambiguë que possible de ce point de vue. Là encore, je vais à nouveau citer Chloé Jacquesson qui a consacré un article à l'exploration de cette question du genre chez Quintane, et je reprends ses analyses, quand elle avait été sollicitée pour participer justement à cette édition Couleur femme du Printemps des poètes, Quintane avait répondu « Je vous remercie pour votre proposition, mais là vraiment je ne peux pas, je ne suis pas une femme. » Et en même temps, au début de Tomate, elle écrit « Minorité de tous les côtés, minorité parce que je lis des livres, minorité parce que c'est de la littérature, minorité parce que lisant des livres et en écrivant, je suis tout de même née d'employée, eux-mêmes nés d'ouvriers, parce que bien que mesurant 1m80, je suis une femme, etc. etc. » Et elle continue à énumérer ces différents versants de sa position minoritaire. Et cette déclaration précède le récit d'un festival de performeuses femmes, et pour dénoncer l'effet de ghetto de ce dispositif. Lorsqu'elle est appelée, et c'est bien d'un appel qu'il s'agit, à réfléchir à la question, Quintane se situe volontiers dans le sillage de Wittig, comme ici en 2010. En 2002, pas plus qu'en 2010, en poésie, pas plus qu'ailleurs, il n'y a de femmes. Ceci par extension motivable de la phrase de Wittig, déjà motivée pour les lesbiennes. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Extension, les femmes ne sont pas des femmes. Par rapport au neutre de Barthes, il y a, me semble-t-il, une différence nette. La position femme est ici une position sociale, donnée, qu'il s'agit certes de prendre en compte pour mieux la déjouer, la prendre de vitesse, mais sans doute pas en suspendant toute prise de position, sans doute pas en cherchant un style propre par rapport aux luttes collectives, mais bien plutôt... il me semble que Quintane insiste sur la dimension toujours déjà sociale et collective de ces questions qu'il s'agit d'objectiver par le travail du style, plutôt que de rechercher un style propre. Et en cela, il me semble que la position de Quintane, je rejoins des choses qui ont été évoquées, de résistance au genre, là c'est une expression que j'emprunte à Chloé Jacquesson, est aussi une résistance à certaines conceptions de la poésie, et notamment lyrique. Donc sans qu'on puisse pleinement assimiler la posture de Quintane à la stratégie de la neutralisation ou à un hypothétique désir de neutre, il me semble qu'elle construit une résistance au genre qui passe par l'affirmation « je ne suis pas une femme ». Cette position anti-lyrique, pour le dire vite, de Quintane, cette manière d'aborder de biais les questions liées au genre, ne semble pas s'appliquer de la même manière aux écrits de Cécile Ménardi. La quatrième de couverture de ses idéogrammes acryliques évoque ainsi un lyrisme étrange mais hautement revendiqué. Et dès un texte relativement ancien, L'armature de Phèdre, écrit au début des années 90, elle s'intéresse à ce que le lyrisme devient quand il se colore du sentiment amoureux. Je cite une phrase de cette armature de Phèdre. « Avec ta chemise rouge, solution lisse de la chair même du monde, tu perturbes mon art poétique comme la lecture d'un grand divergent. Sont concevables certains rouges communicatifs, puis tu précipites l'effet B, le fameux, mais c'est à l'intérieur, mais c'est dans le buste, il y a de la protestation à tout cela. » Si, interrogée sur la question du genre, Cécile Ménardi répond en revendiquant une position qu'on pourrait dire neutre, se disant hors sexuation, même pas dégenrée, ce neutre n'est pas celui de l'écriture blanche, de l'effacement de toute aspérité, mais il s'agit bien plutôt d'un neutre iridescent, tout en fluidité. Je pense à l'eau superliquide qu'on trouve dans « Rose activité mortelle », ou, pour cette fois reprendre un mot de Barthes, un neutre moiré. Et cette filiation avec Barthes, un Barthes qui ne serait plus du côté de l'écriture blanche mais d'une écriture colorée, on peut l'entendre dans un titre récent de Cécile Ménardi, « Le degré rose de l'écriture ». Je conclus par quelques remarques. La première qui pourra peut-être paraître triviale, mais je la dis quand même. Cette question de la présence ou non du genre, de la possibilité qu'il y ait des femmes poètes, d'une position sexuée dans l'écriture, elle intéresse bien sûr aussi la poésie des garçons ou la poésie des hommes, écrite par des hommes, et exemplairement, par exemple, celle de Dominique Fourcade qui écrit au début de « Outrance utérance »« Nous les poètes, les meilleurs d'entre nous tout au moins, nous sommes des femmes ». Rilke était une femme, Baudelaire était une femme, Emily Dickinson était une femme. Je pense aussi dans une toute autre direction à ce que tente Stéphane Bouquet. Deuxième remarque, la persistance du neutre sous des formes variées peut être perçue comme un symptôme de la difficulté à assumer une position à la fois critique à l'égard du genre et une position de femme. Comme s'il fallait être un homme pour pouvoir écrire « Nous les poètes, nous sommes des femmes ». D'où les ressources que semblent pouvoir offrir encore les positions neutres. Je dis les positions neutres, et ce sera ma toute dernière remarque, car il me semble qu'il est important de les envisager au pluriel. Ce que j'ai essayé très rapidement de faire ici, de montrer qu'entre la tension, la tentation de l'effacement chez Colaubert, l'effusion polychrome, rose, blonde, bleue chez Ménardi, ou la tension chez Quintane entre refus d'assumer une identité de femme, mais compte tenu des déterminismes sociaux de genre, nous avons là, dans toutes ces attitudes, une diversité de postures qui peuvent être rattachées à la question du neutre et qui s'articulent parfois très étroitement à des positions critiques telles qu'elles s'élaborent dans le champ des sciences sociales et dans les milieux militants, et notamment dans les études de genre. Et j'insiste là-dessus parce que il me semble qu'on est dans un moment où se fait jour la tentation d'opposer le neutre à la déconstruction du genre. Et je pense ici donc au dernier ouvrage d'Éric Marty, Le sexe des modernes, sous-titré « Pensée du neutre et théorie du genre », et le « et » est à entendre comme opposition, opposition qu'il établit clairement. Cet ouvrage, il me semble que c'est aussi une tentation de faire du neutre un paradigme, ce que précisément il n'est pas chez Barthes. Et donc, dans ce moment, il me semble qu'il y a un intérêt à repérer cette diversité des pratiques du neutre, de souligner leur proximité avec des réflexions et des mouvements sociaux, et donc d'en mettre au jour la portée stratégique et politique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Benoît, pour cette communication passionnante et pour cette ouverture à la fin sur les... qui est très riche de pour les réflexions à venir. Peut-être qu'on va faire comme le si vous êtes d'accord, comme le panel précédent, on va écouter immédiatement Alferat et prendre des questions à la fin. Il y en a déjà quelques-unes dans le Framapad. Vous pouvez continuer à en envoyer. Donc, je vais présenter Alferat, qui enseigne la linguistique, la sémiotique et la communication à Sorbonne Université. Son roman francophone Requiem, écrit au genre neutre, a été publié en 2015. Sa grammaire du français inclusif a été publiée en 2018. Son troisième ouvrage, Une théorie de l'inclusivité, paraîtra en septembre 2021 aux éditions Tana. Et elle soutiendra une thèse sur l'émergence d'un troisième genre social et grammatical, le genre neutre, en novembre 2021 à la Sorbonne. Alferat, je ne sais pas si vous souhaitez mettre votre caméra, si vous êtes... Je crois que vous avez mis votre micro.
Non, ce n'est pas que je ne souhaite pas. Quand je mets ma caméra, Zoom bug et je suis obligée de partir. Donc, soit je pars, soit je reste. Mais malheureusement, vous n'aurez pas d'image.
Non, et donc, votre communication s'intitule « Parce que les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître ». Le français inclusif et le genre grammatical neutre comme outil linguistique dans la traduction française de la pensée et de la poésie d'Audre Lorde. On vous écoute avec grand plaisir.
Merci beaucoup. Donc, je précise à nouveau que mon pronom est Al, Ol ou Ul et en aucun cas Elle. Je remercie également le comité scientifique et en particulier Lénaïque Cariou de votre invitation. Au souvenir de l'échange de courriels entre membres de ce colloque, apportant le sentiment de chacune sur ce choix syntaxique des organisateurs de placer le mot « femme » avant « poète », à une époque où les sciences humaines questionnent la définition de « femme » comme un être humain de sexe féminin, je ne pense pas trop m'avancer en citant Montaigne, lorsqu'il déclare dès 1580 dans son Apologie de Raymond Sebond, la plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. Si Montaigne écrit grammairienne avec un G majuscule, ce n'est donc pas par hasard. Le style vient soutenir l'idée par, plus qu'une personnification, une déification de la grammaire, puisque celle-ci est élevée au rang de première cause de toutes les troubles du monde, rang qu'elle n'atteindra clairement pour l'ensemble des sciences humaines qu'avec l'essor de la linguistique au début du XXe siècle, laquelle rappellera aux autres sciences la conscience du caractère fondamental et premier du langage dans tout savoir. Rappelons que Claude Lévi-Strauss donnait à lire le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure à ses élèves en anthropologie. La grammaire et par extension le langage, pris à la fois, toujours selon Saussure, comme faculté d'expression et de communication, mais aussi tout système de signes, mérite ce rang élevé parmi les causes de troubles dans le monde, si l'on considère qu'il est capable de modeler aussi bien le néant que la réalité, en nommant des êtres et des choses qui existent, comme des êtres et des choses qui n'existent pas, ou dont l'existence est controversée, par exemple Dieu, ou la femme, ou encore l'homme blanc, cisgenre et hétérosexuel, comme meilleur représentant de la catégorie humanité. Si Maya Angelou, dans « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage », écrit que les mots signifie plus que ce qui est écrit, c'est parce qu'en nommant, on fait des choses aussi différentes que valoriser, visibiliser, créer, imposer, limiter ou faire croire à des êtres et des choses. Cette préoccupation qui consiste à se concentrer sur le langage comme préalable indispensable à toute investigation intellectuelle est présente en sciences humaines, mais aussi éminemment en poésie. Parce que dans la poésie, l'une des cinq fonctions du langage, selon la perspective jacobsonienne, le message cesse d'être un instrument pour devenir un objet. Toute l'attention se porte non sur le sens des mots, mais sur les mots eux-mêmes. Mais si, en poésie, la forme devient l'essentiel du message, elle n'empêche pas la fonction référentielle, laquelle ne met pas le message en relation avec lui-même, mais avec le monde. Et une lecture linguistique de l'œuvre d'Audre Lorde nous semble reposer sur ces deux piliers que sont les fonctions poétiques et référentielles. Poète états-unienne noire, publiée dans les années 70, lesbienne et issue de classe populaire, Lorde dynamite le discours universaliste en dévoilant de quoi est fait ce discours. D'un point de vue et de symboles principalement masculins, blancs, hétérosexuels et ou produites par les classes disposant de privilèges. L'une des singularités de cette œuvre est notamment d'exprimer la condition subalterne, au sens où Gayatri Chakravorty Spivak l'a définie en 1988, à la suite de Ranajit Guha en 1982. La condition subalterne est celle de l'être qui ne peut pas parler. Dans cette œuvre poétique, politique et autobiographique, le langage est à la fois le moyen de donner à entendre cette voix inexistante dans les années 70 aux États-Unis, d'une femme féministe, noire, lesbienne et de classe populaire, mais aussi le but à atteindre pour mettre en œuvre une résistance langagière contre cette invisibilisation, ce qui place cette œuvre au centre de l'actualité scientifique et littéraire en 2021, à la lumière du traitement intersectionnel des inégalités sociales par les sciences et les arts. Ce projet de résistance à l'invisibilisation de certaines catégories de personnes, voici comment Audre Lorde le définit dans l'ouvrage rassemblant ses écrits politiques des années 70, Sister Outsider. Je cite : Les structures anciennes de l'oppression, les vieilles recettes de changement sont ancrées en nous. C'est pourquoi nous devons tout à la fois révolutionner ces structures et transformer nos conditions de vie, elles-mêmes façonnées par ces structures. Parce que les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. C'est le même projet que réaffirme Judith Butler 20 ans plus tard, en 2004, lorsqu'elle écrit, je cite, « Nos catégories fondamentales peuvent et doivent être étendues pour devenir plus inclusives et plus responsables face à l'ensemble de l'éventail des populations culturelles. » Cette refonte des catégories au moyen desquelles nous pensons et organiser le monde se concentre au sein de la réflexion décoloniale dans l'idée de substituer à ce point de vue unique et unilatéral qui décrit un seul univers, un point de vue diversel, pour reprendre l'écrivain antillais Édouard Glissant, ou pluriversel, si l'on préfère le terme du sociologue portoricain Ramón Grossfogel, point de vue qui décrirait davantage un plurivers, comme lui propose Grossfogel, ou un multivers, mot emprunté à l'astrophysique et à la physique quantique, et désignant la théorie selon laquelle notre univers ne serait qu'une zone dans un ensemble d'univers. Notons l'intérêt pour la spatialisation de la problématique, que ce soit en grammaire, dans les études décoloniales ou en astrophysique, qui débouche pour nous dans le cadre de notre réflexion linguistique sur un espace, un lieu où l'expérience subalterne peut s'exprimer. Cet espace, c'est celui des mots. Revenons donc du cosmos pour retourner à la poésie et à la philosophie d'Audre Lorde. J'en viens à m'expliquer sur ce que j'entendais lorsque je disais que, dans cette œuvre, le langage est le but à atteindre pour mettre en œuvre une résistance langagière contre l'invisibilisation. Chez Lorde, le langage n'est pas seulement un moyen d'exprimer sa voix, c'est aussi un résultat vers lequel tend la révolution des structures qu'elle appelle de ses vœux. Écoutons cet extrait de Sister Outsider, je cite « Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement, espoirs et rêves d'abord mis en mots. Fin de citation. C'est précisément cette double perception du langage comme moyen et comme but qui émerge dans les productions écrites à partir des années 2000 et que la recherche linguistique peut se donner comme observatoire. On constate en effet l'apparition d'une variation particulière de la norme lexicale et grammaticale au sein de plusieurs langues de familles différentes : français, anglais, espagnol, italien, portugais, suédois. Variété que nous pouvons conceptualiser sous le nom de variation diaétique ou variation fondée sur une conscience relative aux questions de genre, d'égalité, d'identité et de performativité de la langue, qualité de la langue élaborée à partir des travaux de Charles William Morris, John Searle, John Glanshaw Austin et Herbert Paul Grice, et qui consiste non à décrire la réalité, mais à agir sur elle. Grâce à sa performativité, le signe est un influenceur. Dans les corpus, son agentivité se signale par un ensemble de procédés langagiers relevant des langues inclusives ou variétés de langues standards qui s'en distinguent par des procédés langagiers évitant de reproduire des hiérarchies symboliques et sociales associées à des éléments morphosyntaxiques et fondées sur différents critères de discrimination : sexe, genre, âge, mobilité, origine géographique, orientation sexuelle, fonctionnement neurologique, classe socio-professionnelle, etc. Une langue inclusive, c'est ce qui permet de passer de l'essentialisation de « en un handicapé » au déplacement de point de vue de « une personne de la diversité fonctionnelle ». C'est ce qui permet de passer de « français » à « française français » et de « les droits de l'homme à droits humains », pour n'exemplifier que ces trois procédés que sont l'hyperonymie, la double flexion totale et la motivation syntaxique. Compte tenu des caractéristiques de l'œuvre de Lord, l'un des enjeux de sa traduction me semble d'en révéler l'aspiration à décoloniser notre pensée et notre imaginaire qui sont formatés par des dispositifs hiérarchiques de sexe, de genre, de race, de classe et de langue. Dans la poésie de Lord, les substantifs anglais indéfinis sur le plan du genre, par exemple « child », « enfant », dans le poème intitulé « What my child learns of the sea », renvoient souvent à des référents féminins, comme nous l'indiquent les pronoms personnels de genre féminin auxquels ils se rapportent. Pour le traducteur de l'anglais vers le français, cela peut être une indication sur le genre social des référents désignés par ces substantifs en anglais. Mais ces substantifs ne sont pas toujours repris par un pronom personnel qui nous en indique le genre. Ou bien les graphèmes à genre que sont « they », « those », ne se rapporte à aucun référent dont le genre peut être identifié, comme dans le poème « Suffer the Children » où trois choix s'offrent à le traducteur pour la conversion en français du pronom démonstratif « those » à genre en anglais. Prenons par exemple, je cite « Those who love them remember their child's laughter » et que nous pouvons traduire en français standard par « ceux qui les aiment se souviennent de leur rire d'enfant ». Mais la valeur générique et neutralisante du genre masculin n'est plus sentie par une partie de la communauté linguistique francophone qui a compris que la grammaire n'était pas seulement, pour citer le sémanticien Bernard Potier, une abstraction généralisante de l'expérience humaine, mais également une abstraction généralisante de l'expérience masculine, où la prééminence du masculin grammatical a été justifiée et revendiquée par les grammairiens pendant plusieurs siècles par l'analogie qu'ils faisaient, selon leur observation de la nature ou de la société, avec la prétendue prééminence du mâle sur la femelle ou avec celle, évidente en droit par exemple, de la catégorie sociale des hommes sur la catégorie sociale des femmes. Alors, comment traduire « those » ? Devrions-nous traduire « those » par « celle » et prendre le risque de reproduire une hiérarchie en inversant le sens de la relation combinatoire et de créer un nouveau colonialisme de notre pensée et de notre imaginaire, féminin cette fois, colonialisme qui ne traduirait pas, selon nous, l'attachement de Lord à l'égalité sociale et symbolique et qui exprime l'ensemble de son œuvre. Ou bien, devrions-nous traduire « those » par « c'est le » que l'on peut analyser comme un pronom personnel de genre neutre et qui prend en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aspiration de Lord à décoloniser notre pensée et notre imaginaire formaté par des dispositifs hiérarchiques. La traduction en français inclusive de Sister Outsider par les éditions Mama Mélis fait ce qu'une traduction en français standard ne ferait pas. Elle donne à entendre des catégories invisibilisées par les mots. Bref, elle, j'ouvre les guillemets, génère de la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement, espoirs et rêves d'abord mis en mots. Fin de citation. L'exemple suivant est extrait du discours intitulé « Les enseignements des années 60 » et prononcé en février 82 par Lord à l'Université de Harvard. Comparons ces deux traductions, la première en français standard, la seconde en français inclusif. Récemment, on a proposé que les citoyens âgés soient employés dans des entreprises nucléaires sous prétexte qu'ils étaient proches de leur fin de vie. Voilà pour la traduction en français standard. À présent, la traduction en français inclusif. Récemment, on a proposé que les citoyens et les citoyennes âgées soient employés dans des entreprises nucléaires sous prétexte qu'elles, ils, étaient proches de leur fin de vie. C'est la seconde qui a été choisie par les éditions Mama Mélis pour la valeur démonstrative du français inclusif et plus particulièrement des doubles flexions partielles sur « citoyens » et « citoyennes » et totales sur « elle » et « il ». Notons également un apport supplémentaire du français inclusif qui, par les mots de genre neutre, c'est-à-dire les mots qui ne peuvent se classer ni dans le masculin ni dans le féminin, visibilise les femmes, mais également les personnes à l'identité dite « queer », comprise comme critique du binarisme de sexe, de genre et d'orientation sexuelle, définition que nous devons à Maxime Servul et Nelly Kemener dans l'encyclopédie critique du genre à l'article intitulé « Queer », encyclopédie qui vient de paraître. Seulement, si la traduction de l'œuvre poétique et politique de Lord en français inclusif permet la restitution de sa pensée intersectionnelle, elle a également des limites, en risquant de configurer une nouvelle discrimination, non plus opérée par un discours issu de la masculinité hégémonique, pour reprendre Raewyn Connell, mais par un discours inclusif qui utilise des symboles binaires, permettant une nouvelle invisibilisation d'une autre catégorie de femmes parmi les femmes, les personnes non-binaires, et permettant ainsi la reconfiguration d'un discours ségrégationniste que Lord visait originellement à détruire. L'émergence d'un troisième genre grammatical non-binaire en français, illustré par des mots comme « traducteur » pour remplacer « traductrice », « toutes » pour remplacer « tous » ou encore l'article défini « lu » pour remplacer l'AE, pourrait être un outil au service de la traduction en français inclusif de cette poésie et de cette pensée intersectionnelle. Cette éventualité ne devrait cependant pas négliger cet autre risque que comporte ce nouveau découpage culturel du monde par des mots de genre neutre non binaire, consistant à invisibiliser à nouveau les femmes, cisgenres cette fois, par la disparition de leur marque morphologique et ce faisant perpétuant l'imposture universaliste. Cette réinvention de la critique littéraire par l'apport du savoir des études de genre et des études décoloniales, ou pour lui dire plus simplement son actualisation, peut continuer par une critique de la binarité telle qu'elle est reprise par Grofogel, qui pense uniquement en termes de binôme homme-femme, citoyenne, non-citoyenne, blanche-noire, etc., comme le souligne très justement Micheline Labelle dans son article de 2015 dans la Revue européenne des migrations internationales. Comment lui en vouloir quand le système monde qui nous éduque et nous formate repose sur la hiérarchisation et l'opposition de deux éléments formant binôme? Cette indissociabilité de la binarité et de l'ordre du monde a été rappelée très concrètement le 4 mai 2017 par la Cour de cassation en France, qui a débouté une personne intersexe de sa demande d'être reconnue ni homme ni femme. Par ce refus, le droit montre, toujours par le langage, qu'il est également créateur d'une réalité qui n'existe biologiquement pas pour cette personne. J'en arrive à ma conclusion. Dans sa maison, le maître a peur. Car lorsqu'on censure, comme vient de lui faire le ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'on a peur. Cette censure se manifeste par une circulaire parue voici 4 jours au bulletin officiel numéro 18 du 6 mai 2021 et stipule, ouvrez les guillemets, dans le cadre de l'enseignement, il convient de proscrire le recours à l'écriture dite inclusive qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d'un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique. L'intérêt de cette circulaire est de montrer que, finalement, le fascisme, qui vise non seulement à interdire, mais également à obliger à dire, comme l'avait précisé Barthes en 1977, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, n'est pas du côté du français inclusif, mais du côté du pouvoir en place, qui, tout en accusant les peuples francophones locutaires de cette variété du français d'une démarche orwellienne, s'en fait le meilleur représentant, en voulant imposer à ces peuples la novlangue que les grammairiens ont mise en place au XVIIIe siècle par l'intermédiaire de la grammaire normative. Mais les adversaires de la pensée inclusive ont une faille. Elles n'ont pris la mesure ni de la politique exacte que recouvre cette pensée, ni des forces qui la soutiennent, bien plus puissantes qu'un gouvernement, du moins sur le temps long, à savoir les arts et les sciences, au sein desquels la recherche grammaticale, avec un petit g cette fois, s'applique désormais à déconstruire ce qu'elle a autrefois mis en place. Quant aux locutaires de cette pensée inclusive, leur force me semble tenir dans le fait qu'elles ne se connaissent pas, mais sont liées par la plus puissante des forces qui régissent l'humanité et qui, comme lui dit Hannah Arendt, a, ouvrez les guillemets, une autorité qui surplombe et dépasse toutes les lois et règles simplement humaines. Fin de citation. Cette force, c'est leur conscience. Sur ce mot, à la fois puissant, doux, furtif et capital, je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment, Alferat, pour cette réflexion. Et c'est voilà, très passionnant de voir comme vous déployez les différentes hypothèses, différentes possibilités, de différentes façons d'utiliser le... Enfin, j'aimais bien votre expression. Attendez, j'ai perdu ma... La performativité du langage, mais le signe comme influenceur, voilà, les différentes façons d'utiliser le signe comme influenceur pour faire changer les choses, et aussi les limites que peuvent avoir les différentes propositions de formes d'écriture inclusive. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, vous, à la fois pour Alferat et pour Benoît, peut-être, puisqu'on vient d'entendre Alferat, pour commencer. Alors, déjà, est-ce qu'il existe une traduction d'Audrey Lord en français au genre non-binaire? Il me semble que vous avez dit oui, puisqu'elle est...
Non.
Non, ah non.
Donc, non, les traductions que j'ai faites au genre neutre, non-binaire, étaient des traductions libres, c'est-à-dire de moi-même.
D'accord. Est-ce que vous envisagez d'en faire une?
Pas pour l'instant, et notamment pour deux raisons. Déjà, j'ai énormément de travail à faire par ailleurs, mais aussi parce qu'une traduction d'Audre Lorde est prévue en français inclusif, sans doute pas non-binaire, mais ce sera déjà une avancée.
D'accord. Oui, ma question, c'est est-ce qu'il faut, enfin, dans cette perspective, est-ce qu'il faudrait généraliser, est-ce que vous appelez à généraliser ce mouvement, c'est-à-dire ou est-ce que c'est juste pour Audre Lorde, ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin, faire généraliser ça à d'autres traductions, ou à, je sais pas, réécrire la littérature? Jusqu'où est-ce que vous préconisez d'aller?
Les linguistes modernes s'interdisent la démarche prescriptive en ce sens où elle n'est pas scientifique. La linguistique s'inscrit dans les sciences humaines et propose plutôt, en termes de généralisation, d'extraire les lois qui sous-tendent le langage plutôt que de dire à la population comment écrire et comment parler. Et je pense que c'est à chacun, à la fois sur le plan individuel, mais aussi évidemment sur le plan collectif, donc en politique, qu'appartient, déjà dans un premier temps, avant de décider quoi que ce soit, d'organiser un débat sur la pertinence de cette généralisation ou non. Débat avec soi-même et débat avec les autres, puisque la question du langage est une question plurielle, de même que la pensée inclusive est une pensée éminemment plurielle.
Merci pour cette réponse. Il y a une non-question dans le chat qui vous remercie pour l'intervention passionnante, et qui dit « Si l'on choisit d'adapter la traduction à la pensée intersectionnelle de Lord, comment faire lorsqu'on est face à une poésie de femme qui ne se revendiquerait pas de cette convergence des oppressions ? Faut-il accepter dès lors de masculiniser ou de traduire au féminin universel ? Ou bien la traduction fait-elle mieux d'aller, quoi qu'il en soit, vers un neutre intersectionnel non hiérarchisant et non oppressif ? Peut-on penser que l'importance du neutre prévaut sur les intentions de l'œuvre source ?
Elle n'existe pas, j'aurais donc deux choses à dire là-dessus. Elle n'existe pas, comme elle n'existe pas la femme, la traduction. Seul existe des traducteurs. Des traducteurs qui font des choix de recréation du texte original, puisque cela fait partie de la tâche qu'est cette traduction, de recréer un texte dans une autre culture. Mais la traduction, et c'est là mon deuxième point, est tenue de respecter la pensée originelle d'un auteur. Et donc, on ne peut pas faire prévaloir notre engagement personnel, individuel et politique sur le plan du neutre quand on traduit. Si je traduis Lord, je peux utiliser du neutre d'après ma réflexion de traducteur parce que je respecte sa pensée intersectionnelle. Si je vais traduire Trump, je ne vais pas employer du neutre forcément parce que je ne traduis pas une pensée intersectionnelle.
Oui, avec les limites toujours de voilà pour les, après, pour les et pour les oui, pour de comment dire, pour retrouver ou recréer les intentions de l'auteur. Mais effectivement, enfin, en tout cas, oui, c'est ça. Vous ancrez dans le texte source, en tout cas. Il y a aussi des questions pour Benoît. Déjà, une question factuelle. Est-ce que Daniel Colobert a-t-elle produit un discours critique sur les questions de genre et cet usage particulier des marques de genre et des pronoms?
Alors, pas à ma connaissance. Je n'ai pas connaissance d'un discours critique ou théorique de Colobert en général, compte tenu du fait qu'elle est morte très jeune et enfin, elle aurait pu avoir malgré tout cette activité-là. Mais en tout cas, dans les carnets ou dans les livres publiés, je n'ai pas trouvé de théorisation vraiment de cette pratique.
D'accord. Il y a une deuxième question plus...
Oui, j'ai vu sur la question de la mort et du neutre. Alors, c'est une question qui est difficile. Peut-être juste une précision, c'est que il me semble que le travail du neutre chez Colobert, chez d'autres aussi, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est pas que la marque du travail du négatif ou des forces de destruction. Il y a aussi le dernier livre, c'est Survie, et la fin de Il donc, que je n'ai cité que partiellement, c'est quand même une issue trouvée à ce processus d'incarnation, et que c'est transcrit, émigré. Quelque chose a été transcrit, quelque chose a circulé, a émigré. Donc, c'est malgré tout un mouvement de vie et de prise de parole qui est énoncé. Un des mots, des derniers mots du livre, c'est l'énoncé, l'énonciation même. Donc, voilà, dire ça quand même. Et effectivement, ce travail du neutre chez Colobert est... C'est un travail pour se porter à des situations extrêmes. Et donc, oui, c'est un point commun avec peut-être Blanchot et qui fait sa place au négatif, aux forces de destruction, d'autodestruction, et qui peut apparaître comme une forme d'ascétisme, et c'est ce que lui reprochent hein, d'ailleurs Pitolo et Quintana notamment. Voilà, j'ai répondu de loin, mais je crois que je ne pouvais pas faire mieux maintenant.
Est-ce qu'il y a des questions d'autres questions? On peut prendre une dernière question, c'est vrai qu'il est 45 et nous reprenons à 13h, donc il faut qu'on... Oui, il me semble, hein, c'est ce qui est sur le programme, donc je pense qu'il... Ah non, 14h. Non, j'ai eu... Donc, nous avons le temps de prendre encore des questions s'il y en a. Possible que les questions reviennent en cours du colloque, que cette question du neutre revienne. Hein. Mais vous l'avez ouvert tous les deux de façon... vous avez déployé vraiment les questionnements à la fois littéraires et linguistiques et sur nos... La difficulté à la fois enfin, un questionnement nécessaire, mais avec ce que je sentais aussi, enfin, peut-être c'est moi, mais quelque chose d'aporétique, c'est-à-dire la difficulté pour les femmes auteurs, les auteurs femmes, de prendre position, en tout cas en France récemment, mais voilà, je pense que c'est pas uniquement en France, sur ces questions. Enfin,
donc c'est vraiment un questionnement qui est dans le prolongement de la première session sur la catégorisation, c'est-à-dire que, je ne sais plus les termes qui ont été employés, il faudrait arrêter de dire féminin, mais on ne peut pas.
Oui.
Si je résume très radicalement et brutalement ce qu'ont pu dire Christine et Audrey, et le neutre, c'est une tentative pour cela. Enfin, voilà.
Oui, et Alferat montrait aussi comment voilà, passer un genre neutre, ça exclut du coup aussi d'autres. Enfin, il y a toujours un risque d'exclusion, et l'action de la langue étant aussi. Alors, voilà, Alferat rappelait que c'était des décisions individuelles de façon d'écrire et de parler. Mais moi, dans ce que tu disais, Benoît, tout au début de ta présentation, enfin, on est à peu près de la même génération, et les choses ont énormément bougé. Et. Moi, je sais que voilà, maintenant je me définis comme maîtresse de conférence, c'est-à-dire que ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, je crois que c'était ça aussi le sens de ma question à Alferat. les choses, l'usage des noms, les noms de métiers notamment, ont bougé très très vite récemment. Est-ce qu'on peut envisager quelque chose de similaire pour les pronoms, ou est-ce que ça reste... Bon, effectivement, il y a des très grandes résistances dans l'éducation nationale, mais pas seulement. Je ne sais pas aussi si vous avez les uns et les unes et les autres des expériences de pratique.
Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que cette généralisation, elle s'observe déjà. Moi, je ne fais qu'étudier les textes des autres. Évidemment, je fais quelques propositions, mais c'est en pourcentage, ce n'est pas grand-chose. C'est peut-être 10% de ce que je vois dans les textes. N'attendent ni moi, ni personne. Les locuteurs n'attendent plus, ne demandent plus la permission pour créer des mots. Et même l'ensemble des mots dont le lexique français a besoin sur le plan du neutre. À la fin de cette année, j'espère soutenir ma thèse sur le genre neutre en français. Ce sera un acte de reconnaissance d'un troisième genre en français. Alors, après que les institutions le reconnaissent ou non, j'irai, moi, de mon point de vue, évidemment, je ne m'en fiche pas tout à fait, ça aura quand même un impact, et quel impact sur nos vies. Mais n'oublions pas, comme j'ai dit, que l'apparition de mots de genre neutre entraîne avec elle la contestation de l'ordre binaire du monde. Et c'est pour ça que la Cour de cassation française a débouté cette personne intersexe dans sa demande d'être reconnue ni homme ni femme, parce que le droit a dit qu'il ne se sentait pas, la Cour ne se sentait pas légitime pour déconstruire l'ensemble de notre système juridique qui est fondé sur cette binarité. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps, et c'est un euphémisme.
Merci pour ces précisions.
Je vous en prie, merci à vous.
Non, pas du tout. Écoutez, il ne me reste plus. S'il n'y a pas d'autres questions, Benoît, non, tu voulais non. Donc, dans ce cas-là, il me reste à vous remercier vivement tous les deux, tous les participants de toute la matinée, tous nos auditeurs, nos auditrices. Et je crois que nous retrouvons à 14h. Est-ce qu'une des organisatrices veut préciser quelque chose pour l'organisation? Est-ce que tout est en place? C'est le même lien?
Oui, alors le live continue avec un slide de pause, et on se retrouve à 14h pour la suite de cette première journée. Merci beaucoup pour cette matinée déjà très riche. Et puis, bonne pause tout de même bien méritée à tout le monde. Et on se retrouve à 14h.
Merci. Un grand merci.
À tout à l'heure.
Au revoir.